enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Psaume 68. Le psaume 68. Et j'aimerais que vous puissiez, qu'on puisse débuter le message avec des mots exacts du psaume que nous allons lire dans un instant. Mais il y a un commandement dans le psaume 68. On pourrait presque l'appeler le 11e. Il y a les 10 commandements. Ça, c'est le 11e commandement. C'est un ordre de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez commencer en disant à la personne à côté de vous, ton Dieu te commande d'être puissant. Dites ça à la personne près de vous. Alors que nous marchons à travers ces psaumes ensemble, chacun d'entre eux fait une œuvre dans nos cœurs. Chaque message, chaque prédication fait une œuvre dans nos cœurs. Nous avons vu ensemble les psaumes de protection et avons appris par centaines d'entre nous à protéger nos vies, nos cœurs, nos appels, nos maisons spirituellement. Nous avons vu le psaume de la parole où ensemble, dans le psaume 19 et 119, nous avons découvert l'importance d'étudier la parole de Dieu. Des centaines ont pris des engagements personnels de renouveler leur cœur, de lire la parole à chaque jour, être dans la parole. Mais il y a aussi des témoignages concrets qui prennent place, qui nous bénissent énormément. Et en ce moment, à partir de ce message, pas seulement à cause de ce message, mais cet automne, et suite au message, il y a plus de 600 personnes en ce moment, à chaque semaine, à part des réunions du dimanche et du mercredi, où vous apprenez la parole de Dieu, mais il y a plus de 600 personnes qui se sont inscrites à un cours biblique de l'Église Nouvelle Vie, de l'ITF ou de SEBA, qui vivent en 2005 le psaume de la parole. Psaume de proclamation prophétique où nous avons rétabli, relancé, réaffermi nos cœurs avec notre vision tous ensemble. Un psaume, nous avons vu ensemble un psaume de passion pour les pauvres, passion qui se manifeste à travers nos dons, à travers toute notre vie. Quelle joie de voir une recrudescence de bénévoles suite au message pour le groupe Action Nouvelle Vie, recrudescence de générosité à travers le Fonds d'Action de Grâce pour les pauvres de la Rive-Sud. Nous avons vu un psaume de prodige ou d'action de grâce, le dimanche d'action de grâce, avec une matinée qui s'est terminée. Nous avons vu les dangers de l'ingratitude ensemble et quel moment vers la fin, lorsque nous avons vu tous ces témoignages, cette lignée d'hommes et de femmes qui sont venus témoigner un après l'autre et offrir leur action de grâce devant Dieu. J'étais assis dans la salle avec vous simplement, les larmes sur les joues, rendant grâce au Seigneur pour sa bonté et sa grandeur. Je veux remercier le Seigneur. Je prends un instant simplement pour faire ce tour des dernières semaines parce que ça va tellement vite dans nos vies modernes. On vient une série dimanche matin. Il y a tellement de choses qui se passent entre les dimanches. Il est bon simplement de s'arrêter un instant et dire, Seigneur, tu es bon. Voici, chacun de ces psaumes fait une œuvre en nous. J'ai été béni d'avoir plusieurs emails et c'est une des joies et un des privilèges pour moi. Une des joies de l'Église Nouvelle Vie, un des privilèges, c'est d'avoir plusieurs prédicateurs, plusieurs enseignants, une équipe d'enseignants qui apportent la parole de Dieu dimanche. Dernier, le pasteur Marc a apporté un message et cette semaine, et ça me fait plaisir de vous le dire, il y a eu un nombre, fait longtemps, qui n'avait pas eu aussi, autant de emails de gens qui ont répondu à ce message-là a touché leur cœur. Dimanche matin passé, on a présenté une centaine d'ouvriers pour Cœur Nouvelle Vie et le message de pasteur Marc par la suite sur la recherche de sa face, la recherche de sa gloire. J'étais béni en sortant de voir la ligne de personnes qui attendaient pour prendre le CD de ce message et j'ai reçu une lettre cette semaine qui était très typique et qui exprimait nos cœurs à tous dimanche dernier, mais aussi qui ouvre la porte pour le message de cette semaine. Et cette dame l'a écrit dimanche après-midi dernier. Elle écrit, « Cher pasteur Wood, je vous écris dimanche après-midi suite à notre conversation dans le couloir. » Parce qu'après la réunion, je l'ai vue, elle était émue, elle et son mari, et me rendait témoignage du message. « Et les enfants jouent en bas et mon mari est à mes côtés. Je suis chrétienne depuis 15 ans, ainsi que notre famille. Et ce matin a été tellement puissant pour moi. » Elle parle de dimanche matin dernier. Nous avons été déchirés lorsque notre église précédente, qui ne permettait pas aux femmes de parler en public, même à d'autres femmes, et qui ne connaissait aucune croissance et qui était tellement limitante par toutes sortes de réglementations, avait aussi officiellement refusé catégoriquement la demande des anciens dont nous faisions partie depuis de nombreuses années de débuter des petits groupes de cellules de prière. L'équipe de direction et quelques-uns croyaient que cela enflerait la tête des leaders et que les pasteurs perdraient de leur autorité. Nous avons été dévastés. Nous avons été par la suite 2 ans sans aller à aucune église et avons découvert Nouvelle Vie en 2002. Depuis 3 ans, nous avons débuté par le truchement de la radio et par la suite, nous sommes joints à l'Église. Nous avons vécu différentes étapes. Guérison et maintenant bonheur. Aujourd'hui, nous sommes restaurés. De voir tous ces leaders, ça c'était dimanche matin passé, de voir tous ces leaders pour 100 petits groupes sur l'estrade me bénissait tellement ce matin. De penser à toutes les bénédictions qui vont arriver dans toutes ces maisons de la Rive-Sud à travers le bénévolat de ces hommes et de ces femmes me remplissait de joie. Je pleurais de joie. Le message du pasteur Mark m'a bouleversé. Oui, nous voulons, et j'ai vu dans cette lettre-là le cri de nos cœurs à nous tous. Elle dit, oui, nous voulons plus de Dieu, plus de sa gloire. Nous allons découvrir la face de Dieu. Je remercie Dieu pour un tel message qui devient mon cri pour la fin de l'année 2005 et pour l'année 2006. Je veux voir la gloire et la face de Dieu. Je veux encore plus de Dieu dans ma vie et dans ma famille. Et est-ce que c'est notre cri à tous ce matin? Est-ce qu'on peut simplement acclamer le Seigneur ensemble parce que lui va répondre à ce cri? C'est pourquoi ce matin, nous arrivons au psaume 68, on va faire plusieurs semaines, je pense que ça va être 3 messages sur ce psaume cette semaine et la semaine suivante, la semaine prochaine, ça va être porte ouverte à partir du psaume 68, mais particulièrement pour tous vos amis, membres de vos familles, vos jeunes, pour des gens qui ont besoin de connaître le Seigneur. Et on va continuer le dimanche suivant dans le psaume de puissance et un autre message par la suite dans ce psaume 68 qui est chaque message, je crois, conduisant à des moments de prière, à des moments de recherche de la puissance de Dieu. Le psaume 68 est un psaume qui nous appelle à la recherche du surnaturel. Appelle chaque croyant à rechercher, à vivre surnaturellement, à refuser une vie chrétienne par nos propres forces. Le psaume 68 dit de manière sans équivoque, proclame de façon sans équivoque, tu ne peux pas vivre par toi-même. Tu ne peux pas vivre par tes bonnes résolutions, par ta volonté. Tu ne peux pas vivre simplement en essayant de faire de ton mieux et en faisant des efforts. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin de l'aide surnaturelle de Dieu. L'homme ne peut pas vivre seulement avec le pain du quotidien temporel. L'homme ne vivra pas de ce pain-là seulement. Il doit vivre à partir de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Si tu bois de l'eau de ce monde, si tu limites ta vie à manger, à boire, à travailler, à te lever, à venir à l'Église, sans cette dimension spirituelle, tu auras toujours soif. Jésus a dit, tu vas toujours rester avec quelque chose en toi, un manque en toi, si tu bois de cette eau seulement, de la vie humaine. Mais si tu bois de l'eau surnaturelle de mon esprit que moi je te donne, dit le Seigneur, alors il y a un courant qui va couler en toi et qui va déborder jusque dans la vie éternelle. Il y a cet appel dans le psaume 68 à vivre surnaturellement, tellement important. À travers tout le psaume, le Seigneur nous appelle à répondre à ces questions. Est-ce que tu reconnais la puissance de Dieu? Est-ce que tu la recherches? Et est-ce que tu reçois la présence de Dieu? Reconnaître la présence de Dieu comme un style de vie, la rechercher intensément chaque jour, que ça fasse une semaine que tu sois croyant, pour les baptisés de ce soir, ou 40 ans que tu sois croyant, quel que soit ton arrière-plan dénominationnel, quel que soit ce que tu as vécu, Dieu dit, reconnais ma présence, recherche ma présence et reçois ma présence. Que la puissance de Dieu fait toute la différence. Que cette dimension, ce psaume 68, cette dimension du surnaturel de Dieu dans nos vies fait la différence entre le christianisme et toute autre religion. C'est la différence entre le christianisme. Nous sommes dans une époque politiquement correcte où on veut, entre guillemets, respecter en mettant sur un pied d'égalité toutes les religions. Nous respectons toute autre religion, mais le christianisme ne peut pas être mis sur le même pied que des autres grandes religions du monde. Le christianisme n'est pas seulement un mouvement où il y a un leader, un fondateur qui a laissé des écrits et qui a laissé une philosophie et qui a laissé un courant de pensée que nous essayons de suivre 2000 ans plus tard. Cette semaine, je lisais dans Time Magazine un article une portion internationale qui disait que ils sont en train de considérer sérieusement enterrer littéralement la dépouille de Lénine. Depuis des années, c'était à l'époque de haut fait, à la belle époque du communisme en Union soviétique, c'était des milliers de personnes 7 jours sur 7, qui se mettaient en ligne, qui venaient de partout à travers l'Europe communiste et qui se mettaient en ligne pour aller se recueillir, pour aller regarder dans à la tombe de Lénine. Et maintenant, ils considèrent vraiment être obligés de le faire disparaître. Ils ne savent pas trop comment le faire parce qu'il n'y a plus personne qui y va. Il n'y a personne qui y va, les gens ne sont pas intéressés, il y a des vandales, il y a des jeunes punks russes qui écrivent des choses qu'ils ne devraient pas écrire dessus, etc., etc. Puis je ne veux pas me moquer de qui que ce soit, mais des jeunes punks russes qui ont un sens de l'humour, qui écrivent « go to sleep, va dormir », etc., etc., spray paint dessus, etc. Et quelle pensée extraordinaire, lorsque je disais le Times cette semaine, quelle pensée extraordinaire, quelle pensée simple. Dans cette anecdote, il y a toute la différence entre le christianisme et toutes les autres religions. Chaque religion du monde a un leader ou système de pensée, comme le communisme, système de pensée, philosophie, religion, a un leader, il est enterré à quelque part, il a laissé des écrits que des gens essaient de suivre. Et si la parole de Dieu nous dit que lorsque les femmes sont allées au tombeau, l'ange a expliqué la différence entre le christianisme et toute autre religion, l'ange a dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Le tombeau est vide, Christ est ressuscité et sa puissance est disponible pour nous aujourd'hui. » Quelqu'un devrait applaudir, le Christ est ressuscité. C'est la différence entre le christianisme et toute autre religion, c'est la différence entre le christianisme, la puissance de Dieu, la recherche de sa puissance. Différence entre le christianisme rituel et liturgique et le christianisme dynamique qui change des vies. La puissance de Dieu, cette recherche de sa puissance. Et la différence entre une église qui grandit et qui ne grandit pas. La différence entre une église nombriliste. Je suis même pas sûr si c'est un mot, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Une église qui vit pour elle-même, qui vit pour son propre nombril, qui vit juste pour elle-même entre un blessing club, un petit club où on se bénit entre nous. Si la puissance de Dieu est reconnue, si elle est recherchée par chacun et chacune, elle est reçue par chacun et chacune, nous ne pouvons pas considérer notre nombril comme le centre de l'univers. Lorsque tu reconnais la puissance de Dieu et tu la recherches et tu la reçois, il faut que tu sortes, il faut que tu répandes la grâce de Dieu, il faut que tu ailles vers ceux qui souffrent. Dites amen n'importe quand ça vous tente. Il faut que tu touches les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les blancs, les bruns, les verts, les mauves, dans ce pays et dans d'autres nations. Lorsque tu la reçois, lorsque tu la reconnais, lorsque tu la recherches, tu veux la répandre. Quelqu'un devrait dire amen. La puissance fait la différence. Fait la différence entre une église qui est légaliste, qui est bourrée de préjugés, et une église de vie et de victoire. La différence entre une église qui a délaissé son bon commencement, ou entre un chrétien, la recherche de la puissance de Dieu fait la différence entre un chrétien qui va finalement délaisser son bon commencement et devenir un chrétien, et un chrétien qui continue à grandir et à changer. Changer et grandir est seulement possible alors que continuellement, je recherche la puissance de Dieu. Et bien aimé, je vous dis avec tremblement et des larmes dans la gorge qu'il n'y a pas de limite à comment quelqu'un peut tomber en déchéance, comment il peut devenir même pas l'ombre de ce qu'il a déjà été au niveau spirituel s'il abandonne la recherche de la puissance de Dieu à chaque jour de sa vie. Pas de limite. C'est la différence entre un chrétien casquette, sans qualité spirituelle remarquable, et un chrétien qui est animé de l'Esprit de Christ. Vous comprenez que si je me mets une casquette des Yankees sur la tête ou une casquette du Canadien, il n'y a pas beaucoup de monde qui pense actuellement que je suis un joueur du Canadien. Parce que j'ai une casquette du Canadien sur la tête. Il n'y a pas grand monde qui discerne un peu, qui pense que parce que j'ai une casquette du Canadien sur la tête, ouvre un joueur du Canadien. Être chrétien, ce n'est pas seulement avoir une Bible dans les mains, connaître quelques versets bibliques, mettre la casquette, le T-shirt ou venir à l'église le dimanche. Ce qui fait que tu es un chrétien. Et c'est pourquoi la génération de chrétiens casquettes ne gagne personne. Ceux qui gagnent des âmes, ceux qui grandissent, ceux qui communiquent quelque chose, c'est qu'au-delà de j'ai une Bible, j'ai une étiquette, j'ai un nom de chrétien, il y a la vie de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Il y a le fruit de l'Esprit, la personne de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu vit en moi et fait de moi quelqu'un que remarquable, que l'on remarque pour la vie de Christ en lui ou en elle. Risque amen. La différence entre un chrétien, la recherche de puissance, la différence entre un chrétien qui est perpétuellement offensé, qui accuse toujours, qui est ingrat, qui est critique, et un chrétien qui est heureux et attirant. La différence entre un chrétien qui s'enlise et s'éteint au moment de l'épreuve, Et un chrétien qui alors, qui est rempli de la puissance de Dieu à travers toute épreuve, traverse et triomphe. La différence entre un chrétien qui est captif secrètement et un chrétien qui est véritablement libre, je veux le déclarer dans les prochains dimanches, il va y avoir des moments comme ce matin dans quelques minutes de prière. Il y en a dans la centaine de groupes maisons que nous avons, il y en a dans les dimanches matins, dans les dimanches soirs, dans les mercredis, il y a dans les bureaux de l'Église des pasteurs qui vous attendent. Je veux déclarer ce matin, tu n'as pas à vivre de captivité secrète. Nous croyons en 2005 que la puissance de Dieu est réel à travers nous pour te communiquer la libération et la liberté. C'est ça, la recherche de la puissance de Dieu. La différence entre une vie chrétienne ennuyeuse et déprimante et une vie chrétienne joyeuse et passionnante. La recherche de la puissance devient littéralement la différence entre obéir et désobéir à Dieu. Parce que je considère que cette recherche de puissance est un véritable commandement. C'est le 11e commandement. D'autres mots, sans cette recherche de puissance, il nous est absolument impossible d'accomplir les 10 autres. Celui qui rend les 10 autres possibles. Et dans le psaume 68 et au verset 29, nous lisons, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Ton Dieu ordonne ta puissance. Ton Dieu ordonne, commande ta puissance. Verset 29 du psaume 68. Ton Dieu commande que tu sois puissant. Il y a différentes versions qui disent ton Dieu te commande des forces. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ô Dieu, le psalmiste continue en priant. Et voici notre prière à nous. Ça, c'est la recherche. Donne de la puissance, ô Dieu, à ce que tu fais par nous et pour nous. Seigneur, tu as accompli une œuvre à la croix, mais rends-la puissante à chaque jour dans ma vie. Et le verset 34, il nous appelle à sa puissance, il nous parle de sa puissance, il fait entendre sa voix de puissance. Reconnaissez la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à reconnaître dans ce psaume. Nous sommes appelés à rechercher et nous sommes appelés à recevoir. Le verset 35 dit, sa puissance est dans les nuées. Le verset 36, ose de tes sanctuaires, ô Dieu, tu es si puissant. Regardez ici un instant. C'est la différence entre le chrétien fataliste et le chrétien de foi. La majorité du christianisme a cette dimension de « oui, 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 dans les cieux, dans les nuées, Dieu est puissant. Dieu est puissant dans le ciel, il est souverain, il est éternel. » Mais il y a des millions de croyants qui croient en un Dieu puissant, éternel, mais « souverain » devient un mot code pour « fataliste ». Il arrive n'importe quoi sur la terre, il n'y a pas de pensée de combat en eux, il n'y a pas de pensée de se lever, il n'y a pas de pensée de renverser les forteresses, il n'y a pas de pensée de percer les ténèbres. Dieu est puissant, mais il est puissant dans les nuées. Dans le même souffle, le psalmiste dit, « Oh Dieu, tu es puissant dans les nuées, mais tu es aussi redoutable dans tes sanctuaires. » Que l'intention et désir de Dieu, c'est que cette puissance qu'il a dans les nuées se manifeste dans les sanctuaires de l'Église et dans les sanctuaires de nos vies. Ne sais-tu pas que tu es le sanctuaire et le temple du Saint-Esprit? Je suis reconnaissant pour un Dieu puissant dans les nuées, mais j'en ai besoin à Longueuil ici dans ma vie, aujourd'hui en octobre 2005. C'est notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël, qui donne au peuple puissance et pouvoir. C'est notre Dieu qui nous rend capables par sa puissance. Quand j'étais petit gars, ma mère n'était pas croyante, mais elle avait cette expression souvent. Ma mère ne tolérait pas que je dise « je suis pas capable ». Ma mère elle avait cette pensée, tu peux pas dire ça, je suis pas capable. Puis elle avait toujours cette expression-là qui me hantait parce qu'elle me le disait souvent. Elle disait « je suis pas capable, il est mort ». Tu connais-tu son frère? Il s'appelle Jasseille. L'Évangile selon Raymond, chapitre 1. Comment entre vous l'avez déjà entendu celle-là? Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je communique quelque chose de semblable, une version chrétienne, à mon fils. Je communique, mais il y a quelque chose là-dedans qui manque, de grave et de... La réalité, c'est que je suis pas capable, il est mort, on devrait tous essayer. Mais la réalité, c'est que sans l'aide puissante de Dieu, j'essaye et souvent trop court. J'essaye de combattre ces choses intérieures qui me détruisent, mais je suis pas capable. J'essaye, mais je suis pas capable. C'est vous ce que ce psaume-là dit? Il dit pas juste, je suis pas capable, mais mort, son frère, c'est j'essaye. Il dit, je suis pas capable, mais mort, j'essaye, mais il y a la puissance de Dieu pour te donner. C'est Dieu qui donne pouvoir. C'est Dieu qui rend capable son peuple. Vous pouvez dire à voix haute, je suis pas capable, il est mort, parce que Dieu me rend capable. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est Dieu qui donne du pouvoir à ce que nous allons faire. Lorsque nous étudions le psaume 68, j'étais fasciné en l'étudiant, parce que les commentateurs nous disent qu'il est considéré comme un des plus difficiles à interpréter. Il y a 15 mots trouvés à nulle part ailleurs dans les Écritures qui sont trouvés dans le psaume 68, et plusieurs mots très rares. The New Interpreter's Bible, qui est un livre seul et pas seulement sur les psaumes, parle, le grec, l'hébreu, l'histoire et tout ça, et appelle le psaume 68, parle des difficultés d'interprétation légendaires de ce psaume. Et savez-vous pourquoi? Là, comment ça se fait qu'il semble le trouver si compliqué à interpréter? C'est que les interprètes, depuis des siècles et des siècles, il y a des questions qui demeurent sans réponse. Le débat, c'est ceci. Ils ne sont pas capables de déterminer à quelle époque exactement ce qu'il a écrit. Ils savent que c'est David, mais à quelle époque il l'a écrit. Alors là, il y a des livres qui s'écrivent, des épaisseurs de livres qui s'écrivent sur à quelle époque il l'a écrit. Pour qui l'a-t-il écrit? Quel événement? On dirait qu'il pense d'un événement à l'autre de l'histoire. On dirait qu'il pense d'une période à l'autre de l'histoire d'Israël. On dirait qu'il parle d'une période à l'autre. Il y a des psaumes qui s'adressent à une période, des psaumes historiques, des psaumes spécifiques. Mais ce psaume-là, alors les théologiens se casse du sucre, les théologiens fendent les cheveux en quatre depuis des siècles à propos de ce psaume. Et il y a un des théologiens qui dit, il semble couvrir toutes les époques avec ce psaume. Il semble adresser tellement de gens différents. Il semble faire référence à tellement d'histoires. Et là, après ça, l'un des plus gros débats, c'est comment David se servait-il de ce psaume? Est-ce qu'il s'en servait parce qu'ils ont des opinions des notes historiques qui disent il s'en servait dans la prière de chaque jour, il s'en servait à chaque réunion du temple. Non, il s'en servait lorsqu'il adressait les sacrificateurs. Non, il s'en servait lorsqu'il y a eu l'inauguration. Non, lorsque et toutes les débats sont autour et j'ai souri parce que les théologiens, il y en a un qui a écrit ce psaume est écrit par David comme s'il était pour toutes les époques, tous les peuples, tous les âges, toutes les occasions et toutes les circonstances de la vie. Savez-vous ce que ça me fait sourire? Ça me fait sourire avec cette pensée. La puissance de Dieu n'est pas supposée être un débat. C'est supposé être une décision de vie. L'intention de Dieu depuis des siècles, c'est que sa puissance ne soit pas débattue. C'est qu'elle soit recherchée et qu'elle soit reçue et qu'elle soit manifestée dans chacune de nos vies. Que le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, le royaume de Dieu est puissance. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas du parlage. Ce n'est pas seulement parole. L'apôtre Paul, qui était double doctorat, éducation séculière, hors pair, sans égal, expérience mystique hors du commun, avait des dons prophétiques, des dons proclamateurs. Pourtant, il dit, « Moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration du Saint-Esprit et de puissance. » En d'autres mots, l'apôtre Paul, s'il aurait pu, aurait dit, « Est-ce que je peux être un peu plus clair? » Il dit ça dans 1 Corinthiens 2 et renchérit dans 1 Corinthiens 4. Il dit, « Permettez-moi d'être clair. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » C'est pas du parlage. Il y a une immense différence entre regarder un combat de boxe, parler de boxe, percevoir le coup de poing d'en face. Et maintenant, je voudrais que ce message reste avec vous pour toujours. Alors, je voudrais vous demander de... Non, je ne peux pas faire ça. D'en donner un bon à la personne à côté de vous pour qu'il s'en souvienne toute sa vie. Très grosse différence. Lorsque tu vas une partie de hockey, mon fils est dans une équipe de hockey puis ils ont un début de saison extraordinairement difficile. Les parents sont en train de venir fous. On a une victoire et 10 défaites. On a l'équipe élite de Longueuil, une victoire et 10 défaites. Et là, tous les gérants d'estrade sont en train de venir fous. Tous les parents ont 8 théories, ont 8. Les petits gars ont l'air d'avoir du fun, les petits gars ils sortent puis ils s'en vont. Les parents sont en train de venir fous. Pas moi, là. Moi, c'est juste un jeu, c'est pas important, c'est important. Mais... c'est pas parce que j'ai convoqué les 3 coachs à un meeting que je veux nécessairement. Non. Les parents sont là, ils prennent des... Pourquoi est-ce qu'il fait ci, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il y a même, et aucun nom ne va être mentionné, mais il y a même des mamans qui n'ont jamais joué une game de hockey de leur vie, jamais patiné, jamais eu de hockey dans les mains, qui ont de grandes opinions sur tout ce qui devrait être fait. Comment... Que ceux qui ont déjà joué au hockey savent que c'est pas pareil dans les estrades que sur la glace. Il y a quelqu'un d'autre sur la glace qui joue contre toi. Il y a une glace qui glisse, il y a un puck, il y a une bande dure, il y a des méchants avec des pattes sur le dos puis ils veulent pas mon bien. Comprenez-vous qu'on peut que, en anglais, ils disent pundits, des parleurs. Comprenez-vous que tu peux être assis ici au Québec et discuter dans le confort de nos chaises que nos personnes dans les médias peuvent discuter de l'Irak, mais c'est le petit gars de 18-19 ans qui est là-bas, qui a tous les jours, il se lève, puis il sait pas quand est-ce, ça va sauter dans la face, puis tous les morceaux de métal vont le défigurer, lui puis ses quatre meilleurs amis. Il y a une différence entre en parler puis le faire. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit à tous les chrétiens, puis il nous avertit 2000 ans plus tard, le royaume de Dieu, attention de ne pas le réduire à des discussions dans des salles entre clergés. Le royaume de Dieu, c'est même pas 10h et midi le dimanche matin, c'est quand tu sors de ce lieu, le royaume de Dieu, c'est pas juste des paroles et des intentions, c'est la puissance de Dieu qui doit être au rendez-vous et te rencontrer et te permettre de vivre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, contre le ciel, l'enfer, la noirceur, et tout ce qui vient contre toi. Quelqu'un dit amen. Il y a quatre possibilités qui font consensus, à savoir, il y en a au moins une douzaine, mais les quatre qui reviennent le plus souvent, les quatre m'ont beaucoup ému, à savoir quand ce psaume-là a-t-il été écrit? À quel moment est-ce que David a-t-il été inspiré par le Seigneur de dire, Seigneur, nous avons recherché ta puissance, recevoir ta puissance, je dois la reconnaître, en reconnaître le besoin, je dois la rechercher, je dois, Seigneur Dieu, faire revenir un endroit dans ma vie où je recherche ta puissance et reçois ta puissance. À quel moment dans toute sa vie, quels sont les événements qui ont motivé que David soit inspiré par le Saint-Esprit de nous parler jusqu'à nous en octobre 2005, ici à l'Église Nouvelle Vie? Quatre possibilités les plus répandues parmi les théologies. Quatre vignettes. Quatre possibilités. Pourquoi elle a écrit ce psaume? Et je vous les nomme les quatre. Parce que c'est vraiment pas important pour moi lequel des quatre théologiens a raison. Parce que les quatre deviennent mes raisons pour lesquelles aujourd'hui je dois crier pour la puissance de Dieu. David a, certains disent, il a écrit, Seigneur, j'ai besoin de rechercher ta puissance. Tu me commandes d'être puissant. Je peux pas vivre sans ta puissance. Lorsque David a été victime d'un Saül déchu, parce qu'il a vu un homme qui avait eu la gloire de Dieu sur sa vie, qui avait été utilisé, que l'Esprit de Dieu était venu sur lui, puis ça l'avait transformé en un autre homme. Mais qui a vu cet homme au fil des années devenir un leader national et religieux, rempli de méchanceté, de dureté, de jalousie, lorsqu'il a vu ce qu'un homme qui peut, un leader qui peut à peu perdre l'Esprit de Dieu sur sa vie peut devenir, ce qu'il peut faire, la méchanceté qui peut l'animer. David s'est jeté sur ses genoux et a dit, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Pas pour juger l'autre, simplement pour dire, Seigneur, garde-moi, moi, je vois ce qui peut arriver à quelqu'un, à une église, à un mouvement d'église, à une association, à moi-même dans ma propre vie, si je cesse de rechercher ta puissance. Lorsque David a vu, d'autres disent non, c'est lorsque David a vu l'ennemi triompher et emporter les enfants captifs, les enfants d'un peuple sans puissance et sans défense. Lorsque David a vu l'ennemi entrer par un peuple qui, par son idolâtrie, avait cessé de chercher la puissance de Dieu, alors qu'ils avaient cessé de chercher la puissance de Dieu, l'ennemi est arrivé, est entré, et il a vu de ses yeux l'ennemi amener leurs enfants captifs. Et le peuple simplement être là sans défense parce qu'ils avaient cessé de chercher la puissance de Dieu. Et certains disent, c'est à ce moment-là que David a dit, non Seigneur, apprends-moi à rechercher ta puissance. Seigneur, je dois rechercher ta puissance. Non, d'autres disent, c'est lorsque David contemplait la dévastation de sa propre vie après sa chute morale. Beaucoup de théologiens disent, c'est un psaume qui suit dans le temps, le psaume 51. C'est un psaume qu'alors qu'il a vu la dévastation dans sa propre vie, parce qu'il passait des soirées à se remémorer comment il avait été un homme selon le cœur de Dieu, comment il avait été un homme qui avait plu à Dieu, comment il avait été un homme qui chantait et louait Dieu. Aimait Dieu, cherchait Dieu, aimait la présence de Dieu, aimait parler de Dieu, aimait la maison de Dieu, aimait les serviteurs de Dieu, aimait l'église de Dieu, puis aujourd'hui, regarde ce que je suis devenu. Tout ça parce que petit à petit, j'ai pensé que je pouvais vaincre par mes propres forces. Qu'après avoir prié, Seigneur, crée en moi un cœur pur, qu'il aurait crié, oh Seigneur, renouvelle ta puissance à ma vie, que je vive pas, que je puis jamais, j'embarque dans l'engrenage de penser que je peux vivre par moi-même. Et d'autres disent, non, c'est lorsque l'arche de la présence de Dieu est revenue au milieu du peuple dans 1 Samuel, c'est à ce moment-là qu'il a écrit ce psaume. lorsqu'il a vu le peuple dans la déchéance, sécheresse pendant tellement longtemps, mais maintenant, à cause de la repentance du peuple, l'arche revient et la gloire suit l'arche. Et bien aimé, quelle que soit la raison, moi, lorsque je regarde la déchéance des Saül, moi, lorsque je vois l'ennemi qui a pris trop de nos enfants, moi, lorsque je vois ce que le péché peut faire dans chacune de nos vies, et lorsque je vois avec espoir ce que le retour de l'arche de Dieu peut faire, je dis, Seigneur, ramène l'arche de ta présence dans ma vie, dans mes enfants, dans ma famille et dans la recherche de toute une église, l'église Nouvelle Vie à Longueuil en 2005, et que tous les David disent Amen dans ce lieu ce matin. Pouvez-vous applaudir avec moi ce qui pourrait arriver si la recherche de sa puissance devenait le pouls de chacun d'entre nous? Lorsque le mot puissance est trouvé dans le psaume 68, il était utilisé de manière interchangeable. Vous avez le mot tatsuma, qui veut dire rendre fort, augmenter, rendre fort au-delà du naturel. Et le mot azaz, qui parle de stout, solidité, comme quelque chose que tu peux pas bouger. Sécurité, courage, être augmenté, être plus que ce que je suis. Rends-moi reconnaître sa puissance, reconnaître mon besoin de sa solidité, de sa sécurité. Vous savez, la puissance de Dieu, je me sens tellement peu éloquent pour essayer d'exprimer ce qui est sur mon cœur. La puissance de Dieu, c'est pas juste un preacher d'une réunion qui s'écoute son mouchoir et qu'il fait quelque chose. La puissance de Dieu, c'est aussi un homme ou une femme qui a une certaine solidité dans son âme. Quand il est chez eux, puis il traverse une épreuve, puis lorsqu'il est au bureau, puis qu'il y a une tentation, puis lorsque tout le monde autour fait quelque chose que lui sait qu'il est mal, il a une solidité, une sécurité en lui par la puissance de Dieu qui est complètement au-delà de ses capacités naturelles. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est plus, c'est être et plus que ce que je pourrais jamais être par moi-même. Et Dieu dit, reconnaissez ma puissance, recherchez ma puissance, recevez ma puissance. Lorsqu'il dit, reconnaissez ma puissance, voici, il nous parle d'une voix forte, toujours dans le psaume 68, et il dit, reconnaissez la puissance de Dieu. Et Dieu dit à chacun d'entre vous, j'arrive à la fin du message ce matin, la première partie. Dieu dit, reconnais ma puissance où que tu sois. Dans le psaume 68, il y a toute cette nomenclature de d'endroits tellement différents. C'est comme si Dieu traversait les allées ce matin et dit, où que tu sois dans ta vie, où que tu sois, ma puissance est là pour toi. Reconnaître ta puissance, c'est toutes sortes de sites, de lieux géographiques, de locations, d'endroits dans le psaume 68 qui chacun représente une place dans nos vies. Tu as déjà entendu quelqu'un dire, oh, moi, je suis rendu à une place dans ma vie où, et dans le psaume 68, il y a toutes les places de nos vies. Et Dieu dit, où que tu sois, quel que soit l'endroit où tu te retrouves dans ta vie, ma puissance, reconnais-la. Recherche-la, reçois-la. Il dit, où que tu sois, je les ai mis sur une seule diapo pour lire le psaume à la maison. Il dit, la puissance est là, du Sinaï à la montagne de Bassan. Le Sinaï, c'était l'endroit où la parole de Dieu avait été donnée, où la parole de Dieu a été reçue. Et à chaque dimanche, nous tremblons devant Dieu, nous prions, que ce soit pasteur Marc, pasteur Denis, moi-même, et tous les pasteurs de l'Église, tous les enseignants. On espère et prie qu'on arrive le dimanche et qu'on vous communique la parole de Dieu. Mais nous sommes absolument convaincus, et vous devez l'être aussi, qu'au-delà du message qui est communiqué, qu'on vit un Sinaï à chaque semaine, que c'est le Saint-Esprit qui prend cette parole-là et qui la rend vivante dans nos cœurs. L'onction qui enseigne. La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Alors, il dit, ma puissance est là au Sinaï, ma puissance est là aussi à la montagne de Bassan qui était appelée dans Genèse, la montagne des géants. Dieu dit, à l'endroit de ta vie où tu te retrouves face à quelque chose qui est juste un géant, tu te sens tellement petit. C'est un géant. La puissance est là. Il y a des gens qui sont ici ce matin à la montagne de Bassan. Il y a un géant. La montagne est géante. Et Dieu dit, non, moi, je suis là. Ma puissance est là. Mais reconnais ma puissance. Recherche-la contre ton géant. De l'Égypte de la captivité au Jérusalem dans lequel maintenant nous sommes dans son temple, nous avons besoin de sa puissance. Des expériences dans nos vies, il y a des centaines qui sont ici que ça va bien. Vous êtes sur une montagne dans votre vie en ce moment. Ça va bien votre travail, ça va bien dans votre famille. Gloire à Dieu, remerciez-le, bénissez-le. Mais que la personne qui est sur la montagne reconnaisse continuellement son besoin de puissance. Reconnaisse continuellement que c'est seulement Dieu qui m'a amené ici et c'est seulement Dieu qui peut me protéger et me garder. Que tu sois de la montagne, de l'espoir, je vois de haut la montagne, je vois tout ce qui est, j'ai des espoirs pour ma business, j'ai des espoirs pour ma famille, j'ai des espoirs pour mon ministère, je suis une montagne en ce moment, je vois de loin et c'est bien, mais dans ce lieu-là, repose-toi sur rien d'autre, ne diminue en rien, n'atténue pas d'un iota ta recherche de Dieu. De la montagne de l'espoir à la vallée de l'épreuve. Non, moi ce matin, ce que tu viens de dire là, parce que Claude, ça c'est pas moi. Moi je suis dans la vallée. Dans le psaume 68, il parle de ceux qui sont sur les montagnes, de ceux qui sont dans la vallée, où que tu sois, de ta maison. Les mots si simples dans le psaume, il y a des personnes qui restent à la maison, de la personne qui est à la maison, à la personne qui est au combat à l'extérieur, de où tu es, de ta maison. Nous avons besoin de parler de vraies choses, qu'il y ait une révélation à toutes les mamans qui sont ici. Que c'est une tâche absolument éternelle et extraordinaire et divine d'élever un petit bébé, d'élever un enfant dans les voies de Dieu. Et que ça prend la grâce et la puissance de Dieu pour l'accomplir. Lorsque la patience est à bout, lorsque le sommeil manque, lorsque je suis fatigué, lorsque j'en peux plus, lorsque je sais pas quoi faire avec mon enfant puis ses devoirs, lorsque je sais pas quoi faire avec mon ado, lorsque je suis au bout de mes forces dans ma maison, Dieu dit, recherche ma puissance, reconnais ma puissance. Ma puissance, c'est pas seulement pour la personne qui a une Bible dans les mains, qui parle fort à l'église. J'ai un flot de vie pour aller te donner de la grâce, de la douceur, de la compréhension. Combien de personnes ai-je rencontrées ici? Dans ce lieu, au fil des années, qui m'ont dit, moi, j'ai tellement mal été élevé, j'ai été abusé, comment est-ce que je peux élever quelqu'un d'autre? Je ne sais même pas moi-même comment faire. Si vous allez voir le film de Paul Arcand, comme je suis allé le voir, vous voyez toute une génération de personnes. Et pendant tout le long du film, il y a plein de conclusions que tu peux faire. Mais une, pendant que j'étais assis là, qui me bouleversait, c'était la pensée de toutes ces milliers de personnes abusées qui s'en vont lousses dans la société, sans aucune capacité ou connaissance à savoir comment eux-mêmes vont briser ce cycle-là. Et Dieu dit, moi, je suis le père pour l'orphelin, je suis le père pour la monoparentale, je suis capable à chaque jour de t'aider, de t'enseigner, mais aussi de te donner surnaturellement ce que toi, tu peux pas avoir pour être ce que tu n'aurais jamais pu être. Quelqu'un devrait dire amen. Cette dimension de même où que tu sois, qui que tu sois, pendant que les musiciens s'approchent, reconnais ma puissance où que tu sois. Reconnais ma puissance qui que tu sois. Il dit cette puissance dans le psaume 68. Aujourd'hui, ce matin, nouvelle vie, Dieu regarde au-delà de tous les extérieurs qu'il y a ici. Moi, je peux pas regarder à cette salle et connaître. Il y en a d'entre vous, c'est parce que je vous connais. Alors, je sais ce que vous vivez, certains d'entre vous, mais d'autres, je ne connais pas du tout. Mais Dieu vous regarde intimement ce matin, ici, tout de vous. Ceux qui vont écouter ce message à la radio, sont dans leur voiture, sont à la maison, et Dieu connaît tous deux. Il sait qui vous êtes. Et il dit, ma puissance est là pour toi. Si tu peux entrer dans une dimension fraîche dans ta vie où tu la recherches, la reconnais, et tu la reçois. Qui que tu sois, ma puissance pour les orphelins, pour les veuves, pour les femmes seules, pour des gens qui sont prisonniers assis ici dans ce lieu ce matin. Pour des rois des armées, des capitaines d'industrie, des hommes d'affaires, des gens qui mènent plein de choses à l'extérieur et qui, dans le secret de leur cœur, ont des besoins que Dieu connaît. Ceux qui restent à la maison. Une seule personne dans le psaume 68, un solitaire, dit le verset, c'est une personne qui souffre, qui est seule, jusqu'à des milliers et des milliers. Des plus jeunes, on parle de Benjamin, le plus jeune, le plus fragile, une puissance pour nos jeunes au secondaire, une puissance pour nos jeunes au cégep. Parce que c'est juste pour un petit garçon de passer de sixième année à secondaire 1. Passer de l'école primaire, je connais tout le monde, puis je viens dîner à la maison avec maman, être d'une polyvalente avec des centaines. Nos jeunes gens, les amis de mes fils, de mon fils et de ma fille qui ont 12, 13, 14, 15, 16 ans, si vous saviez tout ce qu'ils vivent, les pressions qu'ils ressentent, les peurs qu'ils ont, les douleurs qu'ils ont, quelle beauté dans ce psaume 68 que Dieu dit, moi, ma puissance, elle est pour les plus jeunes. C'est pas une puissance, c'est pas une affaire d'adultes, c'est pas une affaire pour les hommes seulement, c'est pas une affaire pour une classe de société seulement. Ma puissance veut rejoindre. C'est pourquoi nous avons tous les ministères pour les jeunes ici à l'église. Nous croyons que la puissance de Dieu doit et va rejoindre le petit garçon et la petite fille dans son cœur. Quelqu'un devrait dire amen. La puissance pour les plus jeunes, où que tu sois, qui que tu sois, les plus petits et anonymes, verset 6, les plus grands, les princes, les plus connus, où que tu sois, qui que tu sois, quelles que soient tes circonstances et tes combats. Dans le prochain message, on va traverser cette portion. C'est tellement hallucinant, parce que David l'a écrit il y a des centaines et centaines d'années, puis il a décrit nos vies. Il a décrit des choses, vous allez vous reconnaître, c'est incroyable, c'est moi. C'est comme s'il nous prend par la main et nous dit par l'onction du Saint-Esprit, je t'amène à l'endroit qui est toi, ce que tu vis, et je te dis que là, il y a la puissance de Dieu pour ceux qui sont prêts à la rechercher et à la recevoir. Le dernier verset que je veux lire est le verset 20 qui dit, « Béni soit le Seigneur qui à chaque jour, car à chaque jour, il nous prend en charge. » À chaque jour, il nous prend en charge. La parole de Dieu dit, c'est notre Dieu qui donne puissance et pouvoir à ce que nous vivons. Le verset 10, tu répands une pluie bienfaisante au Dieu. ton héritage était épuisé, mais c'est toi qui nous as rétablis. Et ton peuple habitera à l'endroit où toi, tu l'établiras. Regarde-moi ici un instant, quelques instants, dans 10 secondes, j'ai presque fini. Mais Dieu dit, toi, recherche ma puissance, et moi, je peux rétablir ta position. Tu penses que tu as perdu quelque chose, tu penses que tu es loin de ce que tu pourrais ou devrais être. Recherche ma puissance. Dieu dit, le Seigneur dit, Seigneur, moi, là, je veux seulement pouvoir habiter à l'endroit où toi, tu vas m'établir. Quel que soit, le serviteur était épuisé, mais tu l'as restauré, puis tu l'as placé à la position que toi, tu voudrais. Deux témoignages en terminant que j'ai lus cette semaine qui m'ont touché. Témoignage d'un acteur de cinéma américain qui s'appelle Stephen Baldwin. Il a fait plus de 60 films. C'est un des frères des célèbres frères Baldwin d'Hollywood. Alec Baldwin, son frère aîné le plus connu. Mais lui, il a fait 60 films, multimillionnaire. Et alors qu'il y avait tout ça, bien sûr, comme beaucoup d'entre eux, toutes sortes de problèmes, de cocaïne, toutes sortes de problèmes majeurs, il était en autodestruction. Alors qu'il passait de film en film en film, il fait 60 films, il n'arrêtait pas de tourner. Il s'est marié à une femme et leur mariage était au bord d'exploser. Sa vie était en désordre total. Il a fait toutes sortes de centres, toutes sortes de choses. Et il y a une petite madame latina qui est dans une congrégation hispanophone à Los Angeles. Et dans une réunion où étaient quelques dizaines un dimanche matin, les chrétiens ils prient ensemble. Et elle, c'est une femme de chambre. C'est une femme qui fait des ménages, dans des maisons toute sa vie. Et alors qu'ils étaient ensemble, il y a un groupe de femmes qui ont commencé à prier avec elle. Et dans la petite réunion, tout le monde en est témoin, tout le monde s'en rappelle. Il y a une voix, il y a une parole prophétique qui s'est élevée, puis il y a quelqu'un qui a dit, « Voici toi, tu entreras dans une maison, et n'aie pas peur, c'est moi qui t'ai placé là. Et ils te feront peur, tu auras peur d'eux, mais c'est moi qui t'ai placé là. Et tu parleras pour moi, et alors que tu parleras pour moi, ils deviendront chrétiens, ils entreront dans mon royaume, et à travers eux, non seulement ils vont se convertir, mais à travers eux, des milliers de jeunes trouveront l'espoir. » J'aimerais vous dire que Dieu dit, « Toi, recherche ma puissance, et moi, je vais rétablir ta position. » Nous allons être à l'endroit où la puissance de Dieu va nous placer. Que tous ceux qui ont des rêves et des ministères, qui sont attaqués en ce moment, entendent ma parole, recherchent sa puissance, et Dieu peut rétablir ta position. Quelqu'un devrait dire amen. Elle est entrée dans la maison, elle était, à travers un concours de circonstances, engagée pour aller être la femme de ménage dans la maison de Stephen Baldwin. Elle dit au début, il nous faisait peur. C'était un fou. Il est fou, c'est un drogué, c'est un fou, c'est un... Et elle a passé. Et lui, la mère qui raconte le témoignage, il dit, cette femme-là faisait son ménage, partait dans la maison, était très tranquille, très discrète, mais je l'entendais tout le temps chanter. Et lui, c'est un gars qui a gagné des concours d'opéra tant qu'il était jeune. Il parlait de ça quand tu le regardes, mais il a gagné des concours d'opéra. Il y a bien des gars qui sont comme ça. Ça paraît pas comme moi, je suis un grand chanteur d'opéra, mais ça paraît pas. Chanteur d'opéra. Et il entendait cette femme-là toujours chanter toute la journée, puis il comprenait pas son langage, il chantait en espagnol ou en portugais. Et alors qu'il entendait son chant, ses chants, il dit, tout ce que j'entendais, c'est qu'à toutes les 4-5 secondes, il y avait le mot Jesus. Qu'à un moment donné, elle lui a demandé, il commençait à lui parler, il disait que, pourquoi est-ce que, et elle lui a dit, je veux pas vous manquer de respect, mais ne pensez surtout pas que je suis ici seulement pour faire votre ménage. Elle dit, je suis pas ici seulement pour faire votre ménage. Une femme de chambre qui parle à une grande vedette d'Hollywood. Je suis pas ici seulement pour pas une grande vedette, mais une vedette d'Hollywood. Je suis pas ici seulement pour faire votre ménage. Je suis ici pour vous communiquer l'évangile. C'est ça qui va vous libérer. C'est ça qui va changer votre vie. Vous allez donner votre vie au Seigneur, puis un jour, vous allez avoir un ministère, vous allez toucher des milliers de jeunes. Alors lui, il est allé voir sa femme, il dit, faut mettre dehors cette femme-là, elle est folle, elle va regarder qu'est-ce qu'elle m'a dit. Sa femme a été la première à accepter le Seigneur et a commencé à l'église avec la madame. Stephen a donné sa vie au Seigneur il y a plusieurs années. Il est libéré, changé. Ça, c'est la couverture d'un magazine chrétien, Newman. Et pris le temps avec des pasteurs, je rends grâce au Seigneur pour leur sagesse, de l'établir année après année comme disciple, pas le mettre sur un stage au début, etc. Tranquillement, étape par étape. Et en ce moment, il fait une série. Il a fait un DVD de son témoignage. Il y a plus de 100 000 jeunes qui l'ont reçu. Écoutez bien, il va maintenant faire des rassemblements de skate, où est-ce que des skaters chrétiens, où est-ce que c'est vraiment pour toucher les jeunes. Il y a jamais moins que 4 à 5 000 jeunes. Et il écrivait que dans la dernière année, il a été face à face avec 250 000 jeunes alors qu'il proclame l'évangile. Je vous parle d'une petite madame qui lave des toilettes et qui fait des lits et qui passe la balayeuse, mais qui a la puissance de Dieu. Et Dieu dit, moi, je vais te donner une position. Quelqu'un va dire amen. Vous êtes ici ce matin et vous dites, je suis tellement loin, Pasteur Claude. Je suis tellement loin de ce que je... Ça semble tellement loin de moi, les rêves que j'avais pour Dieu. Les rêves que j'ai pour Dieu semblent tellement loin de moi. Ça semble tellement plus, tout pousse pour que je fasse juste m'asseoir dans la routine chrétienne. C'est tout. Il y avait un homme qui était dans le maquis, dans le fond de la jungle au Burundi, qui, lorsqu'il était enfant, a vu ses propres parents être tués dans le massacre. Son père était tué dans un massacre ethnique. Il lui avait rêvé, enfant, de faire du bien. Et alors que son cœur était rempli de haine avec tout ce qu'il a vécu, pendant 10 ans, et Pierre Nkurunziza, pendant 10 ans, était un des rebelles, parmi des milliers de rebelles qui vivaient dans la jungle et qui combattaient le gouvernement, etc., etc. Rempli de violence, rempli de haine, le Burundi a connu des génocides comme le Rwanda. Et cet homme-là, alors qu'il était dans la jungle avec toutes ses comparses par milliers, il a commencé à y avoir un et deux et trois et plusieurs de ses comparses qui ont donné leur vie au Seigneur. Puis qui lui parlaient d'une église qui s'appelait l'église Bon Berger à Bujumbura. Et alors qu'il lui parlait de cette église-là, il y avait toutes des pressions du gouvernement, etc. Et lui, c'était un combat à mort. Ça va être nous qui allons renverser le gouvernement. Et c'était une affaire à mort, etc., etc. Et à travers tout un concours de circonstances, alors que l'église était en train de faire leur culte, leur réunion un jour, les portes se sont ouvertes. Et cet homme, avec un paquet de militaires, de guérillas avec lui, leurs armes dans les mains, sont arrivés à l'église. Ils se sont mis à genoux dans l'église, puis ont dit, on s'en vient rendre nos armes. Nous voulons connaître Jésus-Christ. Et priez pour nous, parce que demain, on s'en va au palais. Et on va se rendre, on va capituler. Tout ça, maintenant, sont des faits historiques. Pasteur Philippe Jaurès était ici la semaine dernière, qui le connaît personnellement. Et alors qu'ils sont entrés dans l'église, ils sont mis à genoux, puis ont dit, priez pour nous, parce que probablement, lorsqu'on va arriver au palais, ils vont nous décapiter. L'église qui était là sous les danses de joie, on commence, imaginez-vous, les rebelles sont rentrés puis se mettent à genoux puis demandent, ils disent, priez pour nous. Ils ont prié pour eux. Dans les jours qui ont suivi, il s'est rendu au palais et non seulement a-t-il été épargné, mais le gouvernement de la place a dit, on va le rentrer avec nous dans le cabinet. Il est devenu ministre. Pendant ces années-là, il s'est fortifié dans la foi en étant fidèle à l'Église. Le pasteur m'a écrit, le pasteur le connaît, le pasteur dit, il est un disciple du Seigneur, je connais sa femme, je connais ses enfants, il est chrétien. Et dans les années qui ont passé jusqu'au mois d'août 2005, en tant que chrétien, il vient d'être nommé le président pour tout le pays du Burundi au complet. Il est président, ça c'était dans son église, alors qu'ils ont prié pour lui. Il est président du Burundi, la première chose qu'il annonce au pays, moi je veux continuer à être un croyant et être un chrétien. Un de ses lieutenants les plus proches est un gradué avec nous, avec Pasteur Mark, moi et tous les professeurs. Il a gradué il y a quelques années. Et il y a quelques semaines, ils étaient à New York, à l'église de Times Square Church, et nous avons reçu une invitation où le premier ministre du pays dit, un des premiers gestes que je veux faire, je veux inviter ce frère du Québec et je veux inviter le pasteur Carter Conlin de New York que vous veniez faire. Une des premières choses que je veux faire comme président, c'est une conférence pour tous les pasteurs et leaders du pays qui vont être appelés par le président du pays. Moi, je veux appeler les leaders pour la réconciliation du pays à travers l'Évangile que moi j'ai connu. Si l'Évangile me change et moi, l'Évangile peut changer mon pays. Je vous parle d'un Dieu qui va te prendre où que tu sois, dans le fond de la jungle ou bien ici à Longueuil et te dire, viens à moi et moi je vais m'occuper de ta position. Moi je vais m'occuper de te placer à l'endroit que j'avais préparé. Quelqu'un devrait dire, Seigneur, ta puissance! Le président du Burundi a offert, et on va voir la suite dans la grâce de Dieu. Mais il a offert de venir ici à notre prochaine conférence, c'est l'ouvert. Je serais tellement honoré d'ouvrir la conférence et de saluer les frères du Québec en leur amenant les salutations de tous les chrétiens d'Afrique. J'aimerais vous dire qu'on lit des choses dans les Actes des apôtres, de la puissance de Dieu qui s'empare d'êtres humains, qui les change. Et on les lit avec la distance de qui semble y avoir entre nous et ses pages. Le psalmiste dit, voici, je vous appelle à reconnaître ma puissance, que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans ce monde en 2005. À rechercher la puissance de Dieu. Et vous allez recevoir la puissance de Dieu qui va te rétablir à l'endroit où moi je veux t'appeler, à l'endroit où moi je veux t'équiper. Alors ce matin, j'ai un appel à faire très simple, pendant que vous penchez la tête pendant un instant. Je voudrais demander combien y a-t-il d'hommes et de femmes dans ce lieu qui disent « Je suis comme David, parce que je regarde la déchéance qui peut arriver à un homme, parce que je regarde ce qui a été perdu. » Lorsque je regarde ce qui a été et qui n'est plus. Lorsque je vois l'ennemi qui vient attaquer les enfants. Lorsque je vois l'environnement dans lequel je suis. Lorsque je vois les combats qui sont à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Il y a un cri dans mon cœur. Seigneur,
viens donner puissance à l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Viens donner puissance. Par les mots du pasteur Marc la semaine dernière, Seigneur, donne-nous plus que ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Par les mots du psalmiste, c'est le Seigneur lui-même qui te rendra capable et donnera puissance à ce qu'il a déjà accompli pour toi. Voici, votre Dieu vous commande d'être puissant. En ce 23 octobre 2005 à Longueuil, le Seigneur te commande d'être puissant. Ce n'est pas un commandement légaliste. C'est Dieu qui dit, non, je ne veux pas t'envoyer sans ma puissance. N'ose pas y aller, n'y va plus, n'essaie pas par toi-même. La vision de Dieu, c'est qu'à chaque matin, des milliers de personnes qui entendent ce message se lèvent, époux et épouse ensemble, qui se prennent par la main et disent, pour maintenant, Seigneur, pour cette journée, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi, que je sois sur le Sinaï ou sur la montagne des géants de Bashan, que je sois dans la vallée. Que je sois un enfant, un jeune, un capitaine ou que je sois une personne seule, une maman à la maison ou quelqu'un qui dirige beaucoup à l'extérieur ou qui a de grandes responsabilités parce que vous avez simplement un petit bébé à la maison. Des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent, Seigneur, restaure-moi par ta puissance. Je veux rechercher ta puissance. Je veux recevoir ta puissance. Je veux reconnaître ta puissance. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. J'aimerais vous inviter en ce 23 octobre 2005 à vous lever solennellement ce matin. Et si vous êtes ici ce matin et vous dites ce message est pour moi, je veux reconnaître la puissance de Dieu, rechercher la puissance de Dieu et je veux recevoir la puissance de Dieu. J'aimerais vous inviter immédiatement à sortir de vos places, l'église entière, et à vous approcher pour dire, me voici Seigneur, je veux rechercher, me voici à tes pieds. Il y en a qui vont venir seuls, il y en a qui viennent en couple, il y en a qui viennent en famille, il y en a des amis qui viennent ensemble, des étudiants de collège public qui viennent ensemble, des frères, des jeunes, des gens de tous les âges, des dirigeants de ministères qui se rejoignent ici en avant, qui disent pour nos enfants, pour Action Nouvelle Vie, pour l'Église, pour la musique, pour la louange, pour l'adoration. Seigneur, c'est toi qui vas rétablir ma position. C'est toi qui vas rétablir ma position. C'est toi qui vas rétablir ma position. Je ne cherche pas de position. Je ne chercherai pas à m'élever. Je ne chercherai plus. J'abdique. J'abandonne. Mais moi, je vais rechercher la puissance. Et Dieu te dit, tu seras à l'endroit où je t'établirai. Et lorsque tu seras établi par la puissance de Dieu, à cet endroit-là, personne ne peut t'enlever. Personne ne peut te pousser. Personne ne peut te couper de l'endroit où Dieu t'aura établi. Alors que nous avançons partout à travers cette salle. Et même ceux qui demeurent à l'arrière ensemble. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Dieu et lui dire ensemble? Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Voici à tes pieds, te demande.
enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.